Lizzie présente Le harcèlement moral, la violence perverse au quotidien, de Marie-France Irigoyenne. Lue par Flora Brunier. Partie 1. La violence perverse au quotidien. De petits actes pervers sont si quotidiens qu'ils paraissent la norme. Cela commence par un simple manque de respect, du mensonge ou de la manipulation. Nous ne trouvons cela insupportable que si nous sommes atteints directement. Puis, si le groupe social dans lequel ces conduites apparaissent ne réagit pas, cela se transforme progressivement en conduites perverses avérées qui ont des conséquences graves sur la santé psychologique des victimes. N'étant pas sûres d'être entendues, celles-ci se taisent et souffrent en silence. Cette destruction morale existe depuis toujours, dans les familles où elle reste cachée et dans l'entreprise où l'on s'en accommodait en période de plein emploi, car les victimes avaient la possibilité de partir. Aujourd'hui, celles-ci s'accrochent désespérément à leur poste de travail au détriment de leur santé tant physique que psychique. Quelques-unes se sont révoltées, ont quelquefois intenté des procès. Le phénomène commence à être médiatisé et cela amène la société à s'interroger. Il est courant dans notre pratique psychothérapeutique d'être témoin d'histoires de vie où l'on discerne mal la réalité extérieure de la réalité psychique. Ce qui frappe dans tous ces récits de souffrance, c'est la récurrence. Ce que chacun croyait singulier est en fait partagé par beaucoup d'autres. La difficulté des transcriptions cliniques réside dans le fait que chaque mot, chaque intonation, chaque allusion ont de l'importance. Tous les détails, pris séparément, paraissent anodins, mais leur ensemble crée un processus destructeur. La victime est entraînée dans ce jeu mortifère et peut réagir elle-même en retour sur un mode pervers, car ce mode de relation peut être utilisé par chacun de nous dans un but défensif. C'est ce qui amène à tort à parler de complicité de la victime avec son agresseur. Il m'a été donné à voir au cours de ma pratique clinique qu'un même individu pervers tente à reproduire son comportement destructeur dans toutes les circonstances de sa vie. Sur son lieu de travail, dans son couple, avec ses enfants. Et c'est cette continuité de comportement que je veux souligner. Il est ainsi des individus qui jonchent leur parcours de cadavres ou de morts vivants. Cela ne les empêche pas de donner le change par ailleurs et de paraître tout à fait adaptés à la société. Chapitre 1. La violence privée. La violence perverse dans le couple. La violence perverse dans le couple est souvent niée ou banalisée, réduite à une simple relation de domination. Une simplification psychanalytique consiste à rendre le partenaire complice ou même responsable de l'échange pervers. C'est nier la dimension d'emprise qui paralyse la victime et l'empêche de se défendre. C'est nier la violence des attaques et la gravité du retentissement psychologique du harcèlement sur la victime. Les agressions sont subtiles, il n'y a pas de traces tangibles, et les témoins tendent à interpréter comme de simples relations conflictuelles ou passionnelles entre deux personnes caractérielles, ce qui est une tentative violente de destruction morale et même physique de l'autre, parfois réussie. Je décrirai plusieurs couples à des stades différents de l'évolution de la violence perverse. La longueur inégale de mes récits tient au fait que ce processus se met en place sur des mois ou même des années, et que, au fur et à mesure de l'évolution de la relation, les victimes apprennent à repérer d'abord le processus pervers, puis apprennent à se défendre et accumulent les preuves. L'emprise. Dans le couple, le mouvement pervers se met en place quand l'affectif fait défaut, ou bien lorsqu'il existe une trop grande proximité avec l'objet aimé. Trop de proximité peut faire peur, et par là même, ce qui va faire l'objet de la plus grande violence est ce qui est le plus intime. Un individu narcissique impose son emprise pour retenir l'autre, mais il craint que l'autre ne soit trop proche, ne vienne l'envahir. Il s'agit donc de le maintenir dans une relation de dépendance ou même de propriété pour vérifier sa toute-puissance. Le partenaire englué dans le doute et la culpabilité ne peut réagir. Le message non dit est « je ne t'aime pas », mais il est occulté pour que l'autre ne parte pas et il est agi de façon indirecte. Le partenaire doit rester là pour être frustré en permanence. Il faut en même temps l'empêcher de penser afin qu'il ne prenne pas conscience du processus. Patricia Highsmith le décrivait dans une interview au journal Le Monde. Il arrive parfois que les gens qui nous attirent le plus, ou dont nous sommes amoureux, agissent avec autant d'efficacité que des isolants en caoutchouc sur l'étincelle de l'imagination. L'emprise est mise en place par un individu narcissique qui veut paralyser son partenaire en le mettant en position de flou et d'incertitude. Cela lui évite de s'engager dans une relation de couple qui lui fait peur. Par ce processus, il maintient l'autre à distance, dans des limites qui ne lui paraissent pas dangereuses. S'il ne veut pas être envahi par l'autre, il lui fait subir pourtant ce qu'il ne veut pas subir lui-même, en l'étouffant et en le maintenant à disposition. Dans un couple qui fonctionne normalement, il devrait y avoir un renforcement narcissique mutuel, même s'il existe des éléments ponctuels d'emprise. Il peut se faire que l'un cherche à éteindre l'autre, pour être bien sûr de rester en position dominante dans le couple. Mais un couple mené par un pervers narcissique constitue une association mortifère. Le dénigrement, les attaques souterraines sont systématiques. Ce processus n'est possible que par la trop grande tolérance du partenaire. Cette tolérance est très souvent interprétée par les psychanalystes comme étant liée aux bénéfices inconscients, essentiellement masochistes, qu'il peut tirer de tels liens. Nous verrons que cette interprétation est partielle, car certains de ses conjoints n'avaient pas manifesté de tendance autopunitive auparavant et n'en manifesteront pas après, et qu'elle est dangereuse, car, en venant renforcer la culpabilité du partenaire, elle ne l'aide absolument pas à trouver les moyens de sortir de cette situation contraignante. L'origine de cette tolérance se retrouve bien plus souvent dans une loyauté familiale qui consiste, par exemple, à reproduire ce que l'un des parents a vécu, ou bien dans l'acceptation d'un rôle de personne réparatrice pour le narcissisme de l'autre, une sorte de mission où elle aurait à se sacrifier. Benjamin et Annie se sont rencontrés il y a 2 ans. Annie est alors engagée dans une relation frustrante avec un homme marié. Benjamin est jaloux de cet homme. Amoureux, il la supplie de rompre cette relation. Il veut l'épouser et avoir des enfants avec elle. Annie rompt sans grande hésitation et va vivre avec lui, tout en gardant son appartement. C'est à partir de ce moment que le comportement de Benjamin change. Il devient distant, indifférent, n'ayant de gestes tendres que lorsqu'il est en demande sexuelle. Annie veut d'abord des explications, mais Benjamin nie qu'il y ait un changement dans son comportement. N'aimant pas les conflits, elle s'efforce de paraître gaie, quitte à y perdre quelque spontanéité. Si elle s'énerve, il semble ne pas comprendre et ne réagit pas. Petit à petit, elle se déprime. Comme la relation ne s'améliore pas et qu'Annie s'étonne toujours du rejet de Benjamin, il finit par reconnaître que quelque chose s'est passé. Il n'avait simplement pas supporté de l'avoir déprimée. Elle décide donc de soigner sa dépression qui semble cause de ses difficultés de couple et commence une psychothérapie. Annie et Benjamin font le même métier. Elle a beaucoup plus d'expérience. Souvent, il lui demande des conseils, mais il refuse toute critique. « Ça ne sert à rien, j'en ai marre. Je ne sais pas de quoi tu veux parler. » À plusieurs reprises, il s'est approprié ses idées tout en niant son aide. Jamais il ne la remercie. Si elle lui fait remarquer une erreur, il se justifie en disant que c'est sans doute sa secrétaire qui a mal noté. Elle fait semblant de le croire pour éviter une explication. Il maintient toujours le plus grand mystère sur son emploi du temps, sur sa vie, sur son travail. Elle apprend par hasard, par des amis qui le félicitent, que Benjamin vient d'obtenir une promotion importante. Il lui ment en permanence, dit qu'il rentre de voyage d'affaires par tel train, alors que le billet qu'il laisse traîner montre que c'est faux. En public, il reste très distant. Un jour, dans un cocktail, il vient vers elle et il lui serre la main. « Mademoiselle X, qui fait tel métier ?» pour très vite la planter là, toute seule. Quand elle lui demande ensuite des explications, il bredouille quelque chose sur le fait qu'il était très occupé. Il lui reproche l'argent qu'elle dépense, même si elle gagne sa vie. Il voudrait qu'elle n'ait rien dans ses placards et il l'oblige à ranger ses chaussons comme une petite fille. Il se moque en public de ses pots de crème dans la salle de bain. « Je ne sais pas pourquoi tu te mets tous ces machins sur la figure. » Annie se demande comment elle pourrait être affectueuse avec un homme qui calcule tout, ses gestes, ses paroles, son argent. Il ne supporte pas qu'on parle du couple. Le mot « couple », c'est ringard. Il refuse de s'engager vis-à-vis d'elle. Un jour, un clown les arrête dans la rue, voulant leur montrer un tour de magie, et dit à Benjamin « C'est votre femme, n'est-ce pas ?» Benjamin ne répond rien et essaie d'échapper. Pour Annie, il n'a rien pu répondre parce que rien ne peut être pensé à ce sujet. « Je ne suis ni sa femme, ni sa fiancée, ni sa petite amie. On ne peut rien dire à ce sujet parce que c'est trop lourd. »